Très bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis donc très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui et je tiens tout d'abord à remercier Jean-Marie Tarascon de m'avoir invité à être ici donc parmi vous. Et donc je vais vous parler de matériaux pour le stockage thermique de l'énergie. Donc on passe du monde du photovoltaïque au monde du solaire thermodynamique. Donc ça sera assez complet. Et puis des nanomatériaux plutôt grosses échelles puisqu'on va être plutôt nous à l'échelle du kilomètre. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc je suis Xavier Py, professeur à l'INSEE de Perpignan, et je réalise donc mes travaux de recherche au sein d'un laboratoire qui est une unité propre du CNRS depuis une vingtaine d'années, qui est le laboratoire PROMESS, qui est le laboratoire en France dédié au solaire à concentration. Alors, le solaire à concentration, on va beaucoup en parler aujourd'hui, c'est très peu connu en France, alors que la France a été largement pionnier dans ce domaine, et en fait la France bénéficie d'une aura internationale dans ce domaine, mais on verra pourquoi sur le territoire métropolitain on en parle assez peu. Donc le laboratoire est situé dans le Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, et donc le trésor de guerre en quelque sorte du laboratoire, qui est la raison pour laquelle il se trouve à cet endroit-là, c'est le grand four solaire d'Odeillo, qui est l'œuvre de Félix Trombe, qui l'a construit il y a plus de 40 ans, et qui est encore aujourd'hui le plus grand four solaire au monde, puisque, comme vous pouvez le constater, c'est un immeuble de 7-8 étages. Et au foyer de cette parabole, on a une puissance thermique de l'ordre du mégawatt sur un peu moins d'un mètre carré de surface, et on peut atteindre des températures de plus de 3000 degrés. Alors, ce n'est pas du tout un outil destiné à produire de l'énergie. C'est un outil de recherche qui permet de travailler sur les matériaux en conditions extrêmes, de faire de la chimie haute température, de préparer aussi des matériaux pour l'espace, les boucliers de navettes spatiales ou préparer les missions sur Mars, et donc de simuler expérimentalement des conditions très particulières de contraintes donc extrêmes pour préparer les matériaux. Et on travaille aussi sur la production de vecteurs énergétiques comme l'hydrogène, où on travaille sur le traitement de déchets, etc. Il y a tout un tas d'activités, et pas seulement donc, les procédés de production d'énergie électrique ou autre. Alors, le laboratoire bénéficie aussi d'une autre installation, qui est la centrale pilote Thémis, qui a été construite dans les années 80, et qui était, on va revenir dessus, donc un pilote EDF-CNRS qui avait pour but de démontrer la faisabilité ou pas des centrales électrosolaires thermodynamiques. On va revenir dessus. Donc autant ces installations-là, pendant une vingtaine d'années, ont eu quelques difficultés en France pour donc se maintenir. Donc depuis que le solaire a redémarré, bien entendu, on est très heureux d'avoir conservé ces outils qui sont tout à fait exceptionnels et à l'échelle mondiale. Donc dans cette centrale pilote Thémis, on y développe les composants des centrales thermodynamiques de demain. Et pour un laboratoire de recherche, c'est évidemment des outils assez intéressants. Donc le laboratoire rassemble à peu près 170 personnes du CNRS et de l'Université de Perpignan, une cinquantaine de doctorants, et puis bien entendu des collègues qui viennent du monde entier pour travailler sur ces installations. Alors, vous l'aurez compris, les procédés phares sur lesquels l'ensemble du laboratoire travaille, c'est notamment ces centrales électrosolaires thermodynamiques. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est ni plus ni moins qu'une centrale thermique, comme une centrale thermique au charbon ou au fioul, si ce n'est qu'on a, remplacé tout ou partie de la chaudière par des concentrateurs solaires. Donc, on a une surface très importante de captage de l'énergie solaire, puisqu'elle est diluée au départ. Et l'ensoleillement direct, on va le collecter, le concentrer pour produire de la chaleur à haute température. Et avec cette chaleur, on va préchauffer de l'eau, l'évaporer, surchauffer la vapeur, turbiner et ensuite condenser derrière pour remettre l'eau donc dans la boucle. Donc c'est un cycle thermodynamique de type vapeur, type Rankine, exactement comme celui qu'on a dans une centrale thermique traditionnelle. Alors c'était un peu l'intelligence d'ailleurs des ingénieurs et des chercheurs de l'époque, c'était de recycler toute la partie bloc électrique du système pour ne développer qu'une partie nouvelle qui est le champ solaire, mais ils ont pu recycler toutes les technologies qui se trouvaient donc du côté bloc électrique. Alors il y a deux grandes familles, les familles de concentrateurs de moyenne concentration type linéaire avec des températures maximum dans les 400 degrés, alors essentiellement dues d'ailleurs donc pas uniquement à l'outil de concentration, mais aussi au fluide caloporteur qui se trouve dans ces systèmes. Donc là, on est sur des tranches de centrales de l'ordre de 50 MW électriques. Et puis, l'autre approche, c'est les centrales à tours. Donc là, dans ce cas-là, c'est assez différent. Le champ solaire est constitué donc uniquement de miroirs, hein, d'héliostats, donc des miroirs plans qui suivent le Soleil à la fois au niveau azimutal et hauteur solaire, et qui renvoient le rayonnement en haut d'une tour. La conversion de rayonnement solaire concentré en chaleur se fait en haut de la tour. Dans ce cas-là, on peut atteindre des températures beaucoup plus élevées, jusqu'à 1000 degrés, alors même si aujourd'hui, on est quand même largement limité à 800 degrés à cause des matériaux. Jusqu'à maintenant, les tranches essentiellement étaient de l'ordre de 10-20 MW, mais toutes nouvelles centrales sont de l'ordre de 100 MW électriques. Voilà. Donc, ces différents systèmes ont un avantage assez conséquent, a priori, par rapport au photovoltaïque qu'on a vu tout à l'heure, c'est que stocker l'énergie thermique, c'est a priori, j'ai bien dit a priori, plus facile que stocker l'énergie électrique. Et donc, à grande échelle, quand on est sur des mégawattheures, évidemment, ça semble être assez intéressant. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi stocker l'énergie? Alors, évidemment, on a tous des bonnes raisons de le faire. On va voir qu'il y a plusieurs raisons, en fait, de stocker l'énergie dans une centrale à concentration. Il y a déjà le stockage de protection, c'est-à-dire que lorsque vous avez une centrale qui délivre, mettons, 50 MW électriques, il faut en amont produire à peu près 150 MW thermiques. Et ces 150 MW thermiques, ils sont produits sur la base de la concentration donc d'une puissance colossale qui arrive en haut de cette tour sur laquelle se trouve un matériau qui sert à convertir le rayonnement en chaleur. Et imaginez que lorsqu'un nuage passe au-dessus du champ solaire, ça crée bien entendu des contraintes thermomécaniques effroyables au niveau de ce récepteur solaire. Et donc ça fragilise l'ensemble du process parce que, et c'est déjà arrivé, si le récepteur claque, l'ensemble de la centrale est arrêté, et pour un certain temps. Et pendant ce temps-là, vous ne vendez pas d'électricité. Et donc il est tout à fait stratégique de déployer déjà un stockage très très spécifique au niveau du récepteur solaire pour protéger l'installation de ces variations dans le champ. Alors, par ailleurs, au-delà du simple récepteur solaire, tout le bloc électrique qui se trouve derrière, il y a une turbine, il y a tout un tas d'équipements qui n'aiment pas les fluctuations en pression-température. Là aussi, on va chercher à amortir les fluctuations solaires. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui industriellement. Les centrales PS10, PS20 en Espagne, qui sont des centrales à génération directe de vapeur en haut de la tour, utilisent ce genre de bonbonnes. Donc chacune de ces bonbonnes est grosse comme un bus de ville à peu près. Dedans, on a de la vapeur à 250 degrés 40 bars. Et ces quatre bonbonnes-là représentent uniquement 30 minutes de capacité de production de la centrale, donc pas grand-chose, ce n'est pas un stockage de production. C'est juste un stockage destiné à isoler un petit peu le bloc électrique du reste du champ solaire. Alors ce que l'on connaît plus, c'est le stockage de production. C'est effectivement le stockage de masse qui consiste à dire que si on dimensionne notre système sur la base de la courbe solaire que l'on a au cours de la journée, on va être amené, par rapport à ce qu'est capable de délivrer le champ solaire en milieu de journée, on va dimensionner le bloc électrique sur le maximum produit en sortie de champ. Et de toute évidence, tout le reste de la journée, le bloc électrique va fonctionner en sous-régime, avec des problèmes de maintenance, de durée de vie, puisqu'il ne fonctionne pas en régime nominal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sous-dimensionner le bloc électrique à peu près à 50%. Tout ce qui va dépasser en termes de production de puissance solaire en milieu de journée, on va le stocker pour le déstocker le reste du temps et permettre au bloc électrique de fonctionner en régime nominal, éventuellement 24 heures sur 24. Donc déjà, on a payé un bloc électrique deux fois moins cher, ce qui est toujours intéressant. Ensuite, il va fonctionner beaucoup mieux parce qu'il est toujours en régime nominal, donc moins de maintenance, plus de durée de vie. Et donc, on gagne effectivement sur tous les tableaux. Donc, c'est non seulement un stockage de production qui va permettre aussi de répondre à une demande éventuellement fluctuante, mais c'est surtout un stockage d'optimisation et de réduction de coûts. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important dans ce genre de procédé. Alors, revenons un petit peu sur ces systèmes-là. Donc là, vous avez l'héritage des années 80. Donc, dans les années 80, se sont développés ces systèmes-là. Alors, aux États-Unis, il y a à peu près 350 MW qui ont été installés. dans les déserts de Mojave, hein, près de la Californie, et ont fonctionné donc, jusqu'à ce que le renouveau du solaire arrive il y a une dizaine d'années. Et grâce à ça, ben, cette technologie de concentration linéaire est la plus mature, puisqu'effectivement, il y a 30 à 40 ans de fonctionnement, et ça fonctionnait plutôt bien. Donc, vous voyez les beaux miroirs cylindro-paraboliques ici, hein, avec un petit peu les dimensions que ça représente, c'est quand même des beaux objets. Sur la ligne focale, vous avez un tube sous vide, un tube absorbeur sous vide, et donc qui permet de convertir le rayonnement concentré en chaleur. À l'intérieur du tube, on a une huile, donc un fluide caloporteur, qui vient chercher cette chaleur, qui la collecte et qui l'amène au milieu de la centrale pour donc produire la vapeur et turbiner. Voilà. Donc, imaginez bien qu'avec la taille de ces miroirs et le poids que ça représente, on a des infrastructures au sol en termes de fondations béton et de ferraillage en face arrière assez imposants, et donc ça représente quand même des quantités de matière assez importantes. Dans une centrale de ce type-là, 50% du prix de la centrale, c'est le champ solaire. Ça vous donne un petit peu une idée. Alors, au départ, dans les années 80, les Américains n'avaient pas implanté de stockage dans ces systèmes-là parce qu'ils avaient du gaz et du pétrole. Et donc, ils faisaient du backup à partir d'énergie fossile sans avoir besoin de stockage. Mais ils ont quand même ressenti l'intérêt de rajouter du stockage. Donc, ils ont déployé en fait des stockages en huile. Donc, l'idée, c'était en sortie de champ solaire sur l'huile chaude, on stocke en thermocline dans des grandes cuves l'huile chaude. Le problème, c'est que ces huiles-là sont très proches du point de craquage, très proches de 400 degrés, et très inflammables. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu des incendies assez effroyables. Et ce n'est pas des huiles bio, c'est plutôt des huiles de synthèse à très fort impact environnemental. Donc, cette approche de stockage en chaleur sensible sur de l'huile a été très rapidement abandonnée dans ces années-là. Pendant ce temps-là, les Français développaient une technologie complètement différente, celle de Témis à Targassonne, près d'Odeillo. Et donc près du laboratoire. Donc ce système-là est très différent. Donc on a une tour de 80 mètres de haut avec en haut de la tour un foyer. En fait, c'est une chaudière avec des tubes réfractaires peints en noir et dans lesquels circule en fait un sel fondu. Voilà. Donc ce sel, c'est alors soit un binaire, soit un ternaire de nitrate et qui va fonctionner toujours en phase liquide, mais à deux niveaux de température. Donc en bas de la tour, on a une cuve donc pour le sel chaud et une cuve pour le sel alors froid, en fait tiède. Hein. On se situe entre 250 et 450 degrés. Lorsque le système fonctionne, on va pomper le sel fondu à 250 degrés, l'amener donc au niveau de la chaudière qui collecte le rayonnement concentré pour le convertir en chaleur, chauffer ce sel fondu jusqu'à 450 degrés pour remplir la cuve chaude. Et puis, lorsque on veut donc produire de l'électricité, le générateur de vapeur vient chercher de la chaleur au niveau du sel chaud. On a donc tous les étages de préchauffage, évaporation et surchauffe de la vapeur que l'on turbine, on condense et on renvoie dans le système. Donc, l'avantage, c'est que le bloc électrique est complètement isolé de la partie champ solaire. Et l'avantage aussi, c'est que comme on utilise un sel fondu donc qui est stable jusqu'à 650 degrés, ça permet d'avoir un système ici qui fonctionne bien qu'à très haute température, à pression atmosphérique, et sur un fluide caloporteur qui est circulé à l'aide de pompes. Alors déjà à l'époque, l'industrie française, enfin l'industrie de manière générale, avait l'habitude d'utiliser des sels fondus, notamment dans la métallurgie ou dans d'autres secteurs, comme fluide caloporteur ou comme pour faire des traitements de surface. Donc c'était une technologie là aussi qui était très bien maîtrisée. Voilà. Alors la seule grosse difficulté, c'est qu'éventuellement, la nuit, si vous avez donc le sel qui s'arrête dans une conduite et que la température descend en dessous de la température de cristallisation du sel, qui était à peu près suivant les sels, 150 ou 250 degrés, justement, le lendemain matin, vous aviez un gros problème pour relancer l'installation. Voilà, donc ça posait des petits problèmes techniques. Mais malgré ça, donc ça fonctionnait effectivement assez bien. Les Américains avaient choisi donc une autre filière qui a posé un ensemble de problèmes pour les centrales à tour. Donc ils réalisaient directement l'évaporation de vapeur en haut de la tour. Mais les différentes problématiques d'évaporation dans les tubes faisaient que souvent la chaudière lâchait. Et donc ils sont venus voir ce que faisaient les Français à Témis et ils ont transformé leur centrale à génération directe de vapeur en centrale donc à sel fondu. Alors, aujourd'hui, ben, on en est où? Bon, après une vingtaine d'années d'éclipse, j'allais dire, sur l'énergie solaire à concentration, ben, tout a redémarré. Et aujourd'hui, le standard pour les centrales électrosolaires de type linéaire, c'est les centrales en Dassault. Donc, c'est les centrales qui sont construites en Andalousie, en Espagne. C'est un mix, finalement, des centrales américaines à concentrateur syndropa parabolique et du stockage en sel fondu de Témis. Donc, ils ont fait un mix des deux. Hein, ils ont pris ce qui était le meilleur de chez des Américains et des Français. Donc, ici, bah, c'est des tranches de 50 MW électriques avec 7,5 de stockage. Et ces 7,5 de stockage nécessitent 28 000 tonnes de sel fondu. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça représente. Avec donc les deux cuves ici, c'est des cuves de 30 mètres de diamètre sur 12 mètres de haut, si je me rappelle bien, qui nécessitent aussi des fondations, etc., conséquentes, donc beaucoup, beaucoup de matière. Vous avez ici un détail des concentrateurs, du tube absorbeur sous vide, de toute cette technologie. Voilà. Alors l'autre technologie hein, qui aujourd'hui est encore en pleine activité, hein, et on a un très bel exemple ici, c'est la technologie dite à tour, avec ici une très belle photo de Gemma Solar qui a été mise en route en 2012, donc c'est très récent, et qui est la première centrale électrosolaire thermodynamique qui fonctionne 24 heures sur 24, tout solaire, grâce au stockage. Ils ont 15 heures de stockage, et c'est le copier-coller de Témis, ce que les Français ont fait dans les années 80. Sauf que, quand vous regardez un petit peu la littérature ou Internet, ils ne parlent pas des Français, ils parlent des Américains, puisque bah, eux ont su effectivement faire assez de publicité sur... Donc les centrales à tours à sel fondu américaines qui en fait avaient copié les technologies françaises. Bien, peu importe. Donc c'est effectivement un très bel exemple. Hein, et la prochaine tranche, c'est la centrale électrosolaire de Crescent Dune aux USA, qui elle fera 110 MW électriques de puissance, alors que Gemma Solar est d'ores et déjà à 20 MW électriques. Donc c'est quand même des beaux exemples. Alors, quel est le potentiel de production de ces systèmes de solaires à concentration? Pas en France, hein. Il est clair que, comme vous avez pu voir, pour 50 MW électriques, il faut 200 hectares de terre pour capter toute cette énergie solaire diluée. Donc, il faut de la terre ensoleillée, plate de préférence. Chez nous, en métropole, c'est plutôt sur le pourtour méditerranéen, et donc les terres sont chères. Et il est difficile de déloger les stars qu'on a du côté de Nice ou ailleurs pour y mettre des centrales électrosolaires. C'est beaucoup trop cher. Donc, c'est plutôt des procédés qui sont destinés aux pays de la ceinture solaire et notamment les pays désertiques, d'où les projets type Desertec, hein, sur lesquels donc, on a fort ensoleillement et par ailleurs donc, des terres qui coûtent pas cher. Alors, nos amis allemands, hein, qui sont leaders dans le domaine du solaire et du CSP notamment, du solaire à concentration, ont fait des calculs. Et il démontre qu'avec une surface comme celle-ci de désert, on pourrait, avec ces technologies, produire les besoins en électricité du monde entier. Hein, donc, on a résolu notre problème de production d'électricité. Alors, en fait, non, désolé. Comme vous le savez, avec Desertec notamment, ce n'est pas le tout de produire cette électricité, il faut la transporter. Et puis, il y a aussi les problèmes géopolitiques et stratégiques qui font que bah, ça peut poser quelques problèmes d'avoir toute la production d'électricité de l'Europe, par exemple, dans certains déserts. Alors, ce n'est pas le seul problème, parce que comme on l'a vu, pour construire ces centrales électrosolaires, il faut aussi beaucoup de matériaux. Et donc, quelle est la disponibilité de ces matériaux? C'est quand même une grande question. Alors, voilà les scénarios aussi prévus par les experts de l'Agence internationale de l'énergie, qui ont estimé qu'en termes de mix énergétique, hein, si on veut s'en sortir, d'ici 2050, ben, le solaire à concentration devrait représenter à peu près 10% de la production mondiale d'électricité. Alors c'est bien parce que ça nous donne, nous, quand même, une petite idée de ce qu'il faut déployer comme énergie et comme matériaux. Ça correspond à peu près... Alors pour en arriver là, il faudrait construire entre 300 et 750 centrales type en Dassault par an. On a déjà pris beaucoup de retard. On en construit au mieux une dizaine. Donc ça pose un problème. Mais bon, ça nous donne un peu une idée. Si on reprend cette technologie type en Dassault, il faudrait de 9 à 21 millions de tonnes par an de matériaux de stockage type nitrate. Et on va regarder du coup quelle est la production de ce type de sel. Alors voilà le principal producteur mondial des sels de nitrate hein, naturels, c'est le Chili. Hein. Et vous avez ici la courbe de production depuis les années 1820 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que bah, le maximum s'est situé à peu près à 3 millions de tonnes par an. On est loin des 9 à 21 millions de tonnes. Et suite à la Première Guerre mondiale, hein, pendant laquelle les Allemands, pour des raisons stratégiques, avaient intérêt à fabriquer des nitrates de synthèse, hein, notamment pour l'armement, ça a eu pour conséquence d'effondrer donc le marché du nitrate naturel. Et aujourd'hui, on est à peu près à 0,8 millions de tonnes par an produits par le Chili au niveau des nitrates. On est très loin des 9 à 20 millions de tonnes nécessaires pour le CSP. Et de toute façon, leur carnet de commandes est plein déjà pour les engrais et pour l'industrie chimique. Donc ça pose un vrai problème de ressources en termes de disponibilité. Alors par ailleurs, ce qui est intéressant au passage, c'est que c'est un matériau naturel, donc on pourrait se dire que c'est un matériau écologique, pas forcément. Hein, si on regarde un petit peu sur toute cette histoire-là, aujourd'hui, ça correspond à 132 millions de tonnes de déchets qui ont été produits et laissés sur place, une centaine d'usines abandonnées et plus de 400 km² de désert exploité et souillé par cette exploitation. Donc on peut plus une guerre au niveau des ressources entre les différents pays dans ces zones-là. Alors, bon, je m'écarte un petit peu des centrales électrosolaires pour dire qu'on travaille aussi sur d'autres types de stockage sur lesquels on trouve le même genre de problème. Et notamment, on travaille sur les systèmes de stockage d'électricité par compression d'air dans les cavernes. Donc ce sont des systèmes qui fonctionnent aussi depuis une trentaine d'années. Hein. Il y a un gros pilote à Untorf, en Allemagne, d'une capacité de 320 MW électriques sur 3 heures, et Macintosh aux États-Unis, 110 MW électriques pendant 26 heures, avec des rendements de 42 à 49%. Donc, c'est des systèmes de stockage d'électricité tout à fait similaires à des barrages hydroélectriques. On est dans les mêmes grandeurs, les mêmes ordres de grandeur, et les temps de réponse sont aussi tout à fait similaires. Donc, c'est intéressant parce que les barrages hydroélectriques, en France, on est un petit peu saturé hein, au niveau des différents sites sur lesquels on peut les réaliser, et ce n'est pas le seul pays. Et alors qu'au niveau des cavernes utilisables potentiellement, on recense à peu près 120 en France, et notamment dans l'est de la France. Hein, les industries chimiques avaient besoin de saumure, donc ils ont injecté de l'eau dans le sol au niveau des gisements de sel-gem. Ils ont remonté de la saumure, et ça crée des très belles cavernes étanches dans lesquelles on peut stocker du gaz. Alors le système est simple, hein, quand on a trop d'électricité sur le réseau, on comprime de l'air dans la caverne, à peu près jusqu'à 70 bars, et lorsqu'on a besoin d'électricité, on détend et on turbine. Alors le problème, c'est qu'on a tous gonflé un pneu de vélo. Il y a une partie de l'énergie qui, lors de la compression, qui est transformée en chaleur et qui est dégradée. Et donc si on veut augmenter le rendement de ces installations, il faut faire ce qu'on appelle un ACAES, donc un système de compression adiabatique, ou à peu près, qui consiste à récupérer la chaleur de compression pour la rendre à la détente. Et donc il faut un sous-système de stockage thermique dans le système de stockage électrique. Alors le problème, c'est que sur des installations comme ça, ce stockage thermique, c'est à peu près 4 à 10 000 tonnes de matériaux, à nouveau. Et puis des matériaux qui sont capables de fonctionner entre 50 degrés pression atmosphérique jusqu'à 650 degrés 100 bars d'air. Et donc c'est quand même très très difficile pour les matériaux pour supporter ce genre de choses. Donc on travaille aussi sur ce type de stockage, parce que les matériaux qu'on va voir après, qu'on a développés pour les centrales électrosolaires, peuvent supporter aussi ce genre de contraintes. Voilà, donc face à ces verrous technologiques en termes de besoins en matériaux, hein, depuis 5-6 ans, les différents experts du stockage à l'échelle mondiale, hein, un petit groupe de l'Agence internationale de l'énergie, on s'est penché sur la question, et donc suivant les pays, il y a différentes approches. Alors les Allemands proposent, eux, d'utiliser du béton, parce que, effectivement, le béton est un matériau qui est assez disponible, hein, comme on le sait, on peut en trouver partout. Alors maintenant, il ne conduit pas très bien la chaleur, et il n'est pas tout à fait compatible avec les fuites de huile solaire. Et donc, en fait, il s'agit de noyer en fait, un échangeur multitubulaire avec du béton, et de stocker et déstocker la chaleur. Alors, le problème, c'est que si on utilise un béton traditionnel, hein, un béton courant, en fait, il n'est pas fait pour être cyclé thermiquement. Et les Allemands donc, qui aujourd'hui construisent ce genre de stockage donc, le garantissent uniquement 10 ans. Alors, pour une centrale qui va fonctionner 30 ans ou 35 ans, ce n'est pas suffisant. Donc ils ont pas mal de problèmes avec ça. Alors, par ailleurs, le problème aussi, c'est que le béton contient beaucoup d'eau au départ. Et donc quand vous allez le chauffer, si vous voulez que ça se passe bien, il faut que la première chose soit faite de manière très 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 lente pour dégager toute la vapeur, sans créer de poches de vapeur, et ça correspond à beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dépensée, et donc c'est assez pénalisant aussi. Mais bon, c'est une approche. Une autre approche, consiste à faire ce qu'on a un peu dans les coupeurs de la métallurgie aujourd'hui, à utiliser des céramiques réfractaires, et puis utiliser des fluides caloporteurs type air chaud pour stocker et déstocker les masses de céramique donc en chaleur. Alors ça fonctionne, bien entendu, puisque c'est directement recyclé de stockage industriel qui fonctionne. Le problème, c'est que ce type de céramique réfractaire peuvent être très coûteuses, hein, jusqu'à 8000 euros la tonne. Alors pour vous donner une idée, les sels de nitrate, c'est 800 euros la tonne. On est 10 fois plus cher sur ces céramiques-là. Et autant les 800 euros la tonne des nitrates, c'est acceptable par les industriels du CSP, autant 8000, ça ne l'est plus. Alors par ailleurs, un des problèmes aussi, c'est l'analyse de cycle de vie, parce que quelquefois, ces céramiques-là ont des analyses de cycle de vie qui sont assez pénalisantes. Alors l'approche qu'on développe, nous, en France, depuis maintenant donc à peu près 6 ans, consiste à les piocher dans les déchets industriels, et de préférence les déchets dangereux, comme source minérale, en fait, largement disponible. Alors, on a commencé par les déchets amiantés, puisqu'on a une entreprise, on verra tout à l'heure ce qu'on a fait avec eux, Europlasma, dans les Landes, qui vitrifient les déchets amiantés, avec un gisement de l'ordre de 250 000 tonnes par an en France de déchets amiantés produites. Et on a consommé 174 millions de tonnes d'amiante au cours du XXe siècle dans le monde. Donc il y a quand même un certain gisement. Si on s'intéresse aux déchets, ça fait à peu près, mettons, deux fois, hein, 300 millions de tonnes. Donc il y a un certain gisement. Les cendres volantes issues d'incinérateurs de déchets ménagers, hein, donc rien que dans l'Europe des 15, 1,6 million de tonnes par an. Bon. Les cendres volantes de centrales thermiques au charbon, 750 millions de tonnes par an. Rien que en Europe des 15, 42 millions de tonnes par an. Alors ça, c'est évidemment quelque chose de très intéressant parce qu'on est bien au-delà des 9 à 21 millions de tonnes nécessaires pour le solaire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces cendres volantes-là sont produites par les opérateurs énergétiques comme EDF aujourd'hui, avec leurs centrales thermiques au charbon. Et ces opérateurs énergétiques seront les propriétaires des centrales électrosolaires de demain. Et donc, ils peuvent utiliser leurs déchets d'aujourd'hui pour faire les méthodes de stockage de leurs centrales solaires de demain. Voilà. Donc, on rentre dans une espèce de cercle vertueux. Et donc, vous imaginez effectivement que EDF s'intéresse de près à ce qu'on fait et finance largement nos recherches. Voilà. Ensuite, vous avez tous les laitiers sidérurgiques, hein, notamment de la métallurgie de l'acier. Hein. Donc là, on est supérieur à 400 millions de tonnes par an. Il y a aussi toute la métallurgie du cuivre. Donc, vous voyez que si vous faites un petit peu la somme de tout ça, on est très, très, très largement au-dessus, en termes de gisement, des 20 millions de tonnes par an nécessaires pour le solaire à concentration. Mais on sait que ce ne sont pas les seules applications pour lesquelles on aura besoin de stockage pour la transition énergétique. Donc l'idée, en fait, c'est, à partir de ces gisements-là, d'élaborer des céramiques de stockage, mais moins chères que celles qu'on a sur le marché à 8000 euros la tonne, et puis de remplacer, donc, dans le système de stockage à sel fondu, toute la partie de sel fondu qui est dans la cuve qui sert uniquement de stockage, conserver le sel fondu comme fluide caloporteur dans le système, mais mettre des céramiques, donc à 80% mettons, de volume, dans le stockage lui-même pour réduire les besoins en sel fondu. Alors, on a donc démarré sur les déchets amiantés. Alors pourquoi ? Parce qu'au départ, on ne s'intéressait pas du tout, en fait. On n'imaginait pas qu'on allait pouvoir utiliser les céramiques issues de déchets amiantés pour le stockage, mais on s'intéressait, en fait, à la diminution du coût énergétique des procédés d'inertage des déchets amiantés, puisqu'en fait, l'approche développée par Europlasma consiste à prendre les déchets amiantés, les monter à 1400 degrés pour fondre les déchets amiantés et donc faire disparaître le caractère microfibreux qui est le caractère dangereux de l'amiante. Alors on obtient en fait un matériau, alors soit lorsqu'il est refroidi très rapidement, c'est un verre, s'il est refroidi plus lentement, on obtient une céramique qui est très proche du basalte, est totalement inerte puisqu'il n'en a plus de caractère microfibreux. Alors, ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est qu'on s'est en fait rendu compte que déjà cette céramique pouvait être intéressante en soi, et le fait de passer par une phase fluide, ça permet aussi de mettre en forme la matière, et donc, outre le fait d'avoir un matériau de stockage, on peut fonctionnaliser sa géométrie et sa surface pour en faire directement un échangeur-stockeur, et donc on rajoute encore de la valeur ajoutée à la matière. Alors, le coût de traitement est de l'ordre de 1 200 euros la tonne. On est déjà en dessous des 8 000 euros du marché pour les réfractaires haute température. Lorsque on a affaire à un déchet dangereux comme l'amiante, on a aussi la loi du pollueur-payeur. Ça, c'est sympathique. Et donc, le prix sur le marché aujourd'hui est de 8 à 10 euros la tonne pour ce qui est de ces matériaux. Et c'est uniquement utilisé comme remblai de route avec quasiment très peu de valorisation. Bon, par contre, 8 à 10 euros la tonne, comparé à 800 pour les sels fondus ou 8000, on a une certaine marge de manœuvre pour rajouter effectivement donc un intérêt industriel. Donc on a largement étudié les différentes structures issues du refroidissement industriel actuel de ces matériaux, avec différentes phases. On a une phase vitreuse qui est issue en fait du choc thermique de la matière avec les lingotières. On a ensuite une zone de céramique isotrope à grain fin qui est en fait la zone particulièrement intéressante, une zone colonnaire, et ensuite au cœur en fait de la matière, on a une structure de macrocristaux isotropes. Donc on a étudié toutes ces structures pour voir laquelle était la plus intéressante. Bon, ben en fait, c'est la structure isotrope à grain fin. Alors, ces structures-là, on les rencontre classiquement dans la métallurgie. C'est quelque chose de tout à fait comparable à ce qu'on a dans ces domaines-là. Et donc, on a réalisé des coulées instrumentées, toute une modélisation pour, à partir de ça, définir quelles sont les conditions opératoires qui permettraient d'obtenir uniquement, bien sûr, cette structure cristalline qui est favorable à des matériaux résistants aux sollicitations sous stockage haute température. Donc on a réalisé ensuite en laboratoire ce type de mise en œuvre. Donc vous avez ici un de mes doctorants en plein travail, vous voyez que c'est quand même assez difficile pour eux, mais donc de travailler avec la matière à 1400 degrés. Et on a pu ainsi donc obtenir des céramiques isotropes à grain fin, alors soit avec des géométries très simples type plaque plane, soit des géométries type plaque plissée qui permettent de réaliser des échangeurs stockeurs type mélangeur statique avec donc des transferts avec l'effet de transfert intensifié. Alors, si on étudie un petit peu les propriétés de ces matériaux, parce qu'ensuite il faut que ces matériaux répondent à nos demandes, donc on a largement travaillé là avec les collègues d'Orléans, le CMHTI, qui sont des spécialistes des matériaux haute température. Donc on a fait des études calorimétriques notamment de ces matériaux. Donc ici c'est les céramiques issues de déchets amiantés, et on se rend compte que si on balaye l'ensemble du champ de température de l'ambiance jusqu'à 1000 degrés, c'est extrêmement stable, on n'a que de la chaleur sensible, il n'y a pas de transformation apparente, et donc a priori ces céramiques-là peuvent être utilisées sur l'ensemble de la gamme des systèmes solaires à concentration et des systèmes de stockage type CAES adiabatique. Alors si on regarde de plus près au niveau de la structure, on a réalisé ici des DRX pour voir ce qui se passe au niveau des phases cristallines. Donc si on part du verre lorsqu'on fait un refroidissement très très rapide, donc on a au départ un diffractogramme très plat puisqu'effectivement c'est un verre. Lorsque l'on chauffe, arrivé à peu près à 900 degrés, on a la cristallisation donc, de la matière, on obtient la céramique, donc on peut partir bien entendu directement de la céramique. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on cycle cette céramique de l'ambiante à 1000 degrés et que l'on effectue des cycles répétés, on constate que la structure cristalline est extrêmement stable. Alors, ce qui évidemment est très intéressant pour nous, puisque ça garantit une bonne stabilité du matériau de stockage sur l'ensemble de la gamme d'applications. Alors, vous avez ici des résultats tout à fait similaires pour les verres et céramiques issus de cendres volantes d'incinérateurs de déchets ménagers. Quand on part du verre, on voit ici la transition vitreuse suivie de la cristallisation. Et une fois qu'on a la céramique, on voit qu'on a un thermogramme tout à fait plat, tout à fait calme, qui correspond uniquement à la chaleur sensible. En termes de DRX, exactement le même type de résultat qu'avec les céramiques issues de déchets amiantés, des céramiques extrêmement stables et donc tout à fait utilisables pour le stockage haute température. Alors si on regarde les propriétés thermophysiques de stockage, alors évidemment on a eu une petite crainte, comme tout à chacun, de se dire on part de déchets, et les déchets amiantés notamment ont une grosse variabilité au niveau de l'amont, et donc on aura peut-être une grosse variation aussi des propriétés thermophysiques de stockage, ce qui évidemment est problématique pour une application industrielle. Alors en fait pas du tout, parce que si on a à peu près tout le tableau de Mendeleïev présent dans la matière à cause des impuretés, les 3-4 composés principaux managent absolument toutes les propriétés. Et on a donc essentiellement du SiO2, du CaO et du Al2O3. Et les propriétés obtenues sont typiques effectivement des aluminosilicates. Donc on voit qu'au niveau de la capacité calorifique par exemple de ces matériaux, on va de l'ambiance de 800 jusqu'à 1100 à 1000 degrés joules par kilo par Kelvin, tout à fait similaire à des roches par exemple, il n'y a pas de surprise, avec des masses volumiques aussi tout à fait proches de ce type de matériaux, donc en fait aucune surprise de ce côté-là. En termes de conductivité thermique, C'est la même chose, hein. On a des conductivités thermiques de l'ordre de 1 à 1,5 watts par mètre et par Kelvin, hein, de l'ambiante jusqu'à 1000 degrés, ce qui est tout à fait classique de ce genre de matériaux céramiques. Alors, par contre, il y a un enjeu. C'est-à-dire que si on peut augmenter cette conductivité thermique, hein, et notre rêve, c'est de le faire un x10, ça pourrait donner un avantage stratégique et en termes de marché tout à fait considérable à ces matériaux. Donc, bien entendu, on y travaille. Ça fait partie des activités du laboratoire aujourd'hui. Et on verra que d'ores et déjà, il y a des résultats assez intéressants. Alors, on s'est amusé avec les collègues d'Orléans à faire des verres modèles à partir des compositions majoritaires pour comparer les résultats de ces céramiques issues de déchets aux matériaux modèles. Et en fait, on a des résultats tout à fait similaires. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, on a ensuite soumis ces matériaux à des sollicitations un peu extrêmes. Donc, vous avez ici une expérience que l'on a au fond solaire d'Odeio. Donc, c'est une parabole axe verticale. En bas du bâtiment, vous avez un héliostat qui suit le soleil. Et entre l'héliostat et cette parabole axe verticale, qui elle se trouve dans le bâtiment, on a des pales en graphite qui permettent en fait d'obturer plus ou moins le rayonnement solaire. Et en pilotant ces pales, ça nous permet en fait de maîtriser parfaitement la température à laquelle on soumet la surface du matériau donc dans le cône de concentration. Donc vous avez ici des résultats expérimentaux. Vous voyez qu'on a cyclé entre 500 et 1000 degrés en température de surface le matériau. Ici, vous avez les températures dans le cylindre à des niveaux inférieurs. Et donc, on a soumis ces matériaux à des sollicitations dynamiques de chauffe-refroidissement avec des rampes de 100 à 2500 degrés par minute. Donc, c'est des conditions extrêmes, sous air, je précise. Hein, donc, c'est quand même un matériau qui monte jusqu'à 1000 degrés avec ce type de sollicitation et sans casser, sans se rompre, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les meilleures céramiques réfractaires qu'on a pu tester du commerce ne peuvent pas supporter ce genre de sollicitation. Donc ça, c'est un avantage tout à fait considérable qu'on a étudié un peu plus avec les collègues du GMH de Limoges, hein, puisque nous avons aussi la chance d'avoir des céramistes de très haut niveau à Limoges. Et donc, les collègues du GMH ont développé des techniques de caractérisation des céramiques en température sur la base d'échographie ultrason. Et donc, de l'ambiance jusqu'à 1000 degrés, cela permet directement de mesurer en fait, le module de Young au cours de la chauffe du refroidissement et au cours de cycles répétés. Alors, l'avantage, c'est que ça permet déjà de bien caractériser le matériau au niveau de ses propriétés thermomécaniques et de suivre aussi son vieillissement au cours de ces cycles de chauffe et refroidissement. Alors, par rapport à toute la panoplie de céramiques qu'ils connaissent déjà, ça nous a permis de constater déjà qu'on avait bien des céramiques réfractaires de bonne facture. Et par ailleurs, ça nous intéresse énormément parce que aujourd'hui encore, les matériaux céramiques utilisés dans le stockage de l'énergie thermique, souvent, sont utilisés en boîte noire. C'est-à-dire que on achète les tonnes de matériaux, on les met dans la cuve, on les utilise en cyclage, mais on n'a pas un suivi in situ du vieillissement du matériau. Et avec cette technologie d'échographie ultrason, on peut très bien, ou par mesure acoustique, hein, suivre le matériau au cours de sa vie et par rapport à sa signature initiale, voir s'il y a une dérive et s'il y a des problèmes. Donc là, il y a un gros enjeu aussi en termes d'instrumentation de process et de suivi de vieillissement de matériaux. Bien entendu, une fois qu'on maîtrise à peu près nos matériaux, ce qui est à peu près le cas maintenant, il faut étudier la compatibilité de ces matériaux avec les fluides de transfert, les fluides de process. Donc on l'a fait sur les sels fondus. Alors ça se passe très bien avec les nitrates, ça se passe très mal avec les autres. Mais bon, Dieu merci, on utilise des nitrates dans nos procédés. Et puis on l'a fait aussi avec l'air chaud sous pression, parce que c'est intéressant pour les CAES qu'on a vu, les systèmes de stockage par compression d'air, et aussi pour les futures générations de centrales électrosolaires à tours, pour lesquelles on va aller vers les 800 et 1000 degrés. Et là, le fluide de travail, ça sera l'air, parce qu'effectivement, il ne coûte pas cher. Et il présente pas de danger. Maintenant, il faut des matériaux capables de résister à ce genre de conditions. Donc, on a pris nos céramiques issues de déchets amiantés, on les a soumis à des cycles de cycles thermiques hein, entre les conditions de température, pression ambiante et 650 degrés, 30 bars d'air. Donc, c'est des cycles à chaque fois de 250 heures. Et là, on a 10 cycles donc jusqu'à 2500 heures. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Déjà que le matériau évolue, c'est-à-dire qu'au départ, on a deux phases cristallines, on a à peu près moitié de wollastonite et d'augite, et au fil des traitements, au bout d'un moment, on n'a plus que de l'augite. Alors, ce n'est pas grave, hein, tout se passe bien, parce qu'en fait, l'augite est un bon matériau aussi de stockage, une bonne céramique. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, lorsqu'on suit la conductivité thermique de ces matériaux, en fait, la conductivité thermique de l'augite est de 20 à 30% supérieure à celle de la wollastonite. Et donc, c'est une bonne chose. Hein. Et donc, à partir de ce constat, on est en train de mettre au point en fait, un procédé d'intensification de conductivité thermique de nos céramiques à partir de traitements, donc haute pression, haute température. 20%, c'est déjà quelque chose d'assez important, hein, parce qu'en fait, ça se reporte directement sur les niveaux de puissance de stockage-déstockage dans le matériau. Voilà, donc on a les diffractogrammes correspondants ici sur ces systèmes-là. Donc on a d'ores et déjà fait le même type hein, de mesures sur les céramiques issues de cendres volantes, et ça se passe bien aussi. Alors si on compare un petit peu ces matériaux avec les matériaux disponibles sur le marché, le béton haute température, les sels fondus, les céramiques de synthèse et nos matériaux recyclés, globalement, en termes de propriétés thermophysiques, thermomécaniques, c'est assez semblable. Au niveau thermomécanique, c'est même souvent meilleur. La grosse différence, c'est que les bétons, pas haute température, mais les bétons utilisés par les Allemands pour le CSP et les sels fondus sont limités en dessous de 650 degrés, alors que toutes les céramiques dont je parle peuvent travailler au-delà. Donc ça, c'est quelque chose de effectivement important. Et puis, bien entendu, au niveau de leur coût, hein, on est bien en dessous du prix des autres types de matériaux. Et aussi, bien entendu, au niveau de l'analyse du cycle de vie, au niveau de l'impact environnemental, ça présente un intérêt certain. Donc, pour ce qui est de la mise en forme, eh bien, on y travaille à différentes échelles, parce que le problème, c'est que élaborer un matériau à l'échelle de laboratoire, c'est bien gentil, mais sur quelques centaines de grammes. Mais lorsque vous réalisez notamment un matériau en plaque plissée à l'échelle industrielle, les relaxations de contraintes thermomécaniques sont très différentes. Et donc, il faut effectivement travailler à plusieurs échelles. Donc, on le fait d'ores et déjà dans les Pyrénées-Orientales sur un four de 50 kW à Mont-Louis, avec des charges d'une trentaine de kilos. Et puis, directement sur site industriel avec Europlasma, puisqu'on a effectivement, dans le cadre d'une ANR, la possibilité de travailler directement avec eux en sortie de coulée du four à torche plasma pour réaliser des pièces donc, plus conséquentes, hein, de éventuellement quelques centaines de kilos. Alors, ces matériaux ensuite mis en forme, comme vous voyez ici, sont prototypés à l'échelle d'abord laboratoire. Hein, donc là, on a un échangeur, un module stocker-échangeur. Donc vous voyez les plaques plissées qui empilées les unes au-dessus des autres constituent un mélangeur statique et le fluide va passer à travers cette gaufrette pour stocker ou déstocker la chaleur et on va pouvoir jouer sur la géométrie, alors sur l'épaisseur de la matière et sur la géométrie des plis pour optimiser le système en ayant les meilleurs transferts thermiques avec des pertes de charge minimales. Voilà. Donc ça c'est à l'échelle du laboratoire et la prochaine étape c'est donc en haut de la tour de Thémis, où là, on devrait pouvoir travailler sur 3 tonnes de matériaux, puisque pour mettre ça sur le marché, il faut l'avoir validé quand même à une échelle suffisante. Alors la question qu'on doit se poser, c'est quel est le temps de retour énergétique de cette chose-là, parce que il y a quand même le coût énergétique du traitement du déchet au départ. Donc on a fait le calcul, et on se rend compte que du fait que le matériau céramique à la fin est utilisé à des usages énergétiques, on peut avoir un temps de retour énergétique intéressant. Donc on a regardé les rendements matière énergétique des procédés de traitement de type torche plasma, ce que peut permettre de produire comme électricité le matériau une fois dans une centrale électrosolaire, et on se rend compte que, suivant les matériaux et suivant les procédés d'application, on a un temps de retour énergétique inférieur à un an à peu près pour 35 ans d'usage, donc il n'y a pas de gros problème. Alors malgré tout, bien entendu, on ne peut pas s'en empêcher, on travaille sur des procédés hybrides hein, qui consistent à traiter directement ces déchets souffle solaire concentré. Alors rassurez-vous, ce n'est pas des déchets amiantés, ici c'est des cendres volantes. On obtient des très belles mulites à partir de cendres volantes par fusion 100% solaire. Alors ce n'est pas raisonnable de faire des procédés de traitement de déchets 100% solaire. Il faut être certain d'avoir traité le déchet et donc il faudra toujours un finisseur, soit torche plasma, soit micro-ondes, soit induction. Et donc on va sur des procédés couplés et on travaille donc là-dessus depuis quelques temps. Alors, on parle depuis un moment maintenant de céramiques qui sont très très proches des roches. Et donc la question qu'on se pose naturellement, c'est pourquoi ne pas en revenir aux roches directement? Alors tout simplement parce que si il est vrai que les propriétés thermophysiques sont assez semblables, Par contre, souvent, ben, la tenue au cyclage thermique est plutôt mauvaise au niveau des roches. Hein. Dès qu'on les chauffe au-dessus de 300 degrés, souvent, elles se fragmentent et elles ne tiennent pas. Donc, on a quand même regardé de plus près pour voir si on ne pouvait pas trouver quelque chose. Et c'est là où on s'est rapproché de nos collègues donc de Totavel et du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, préhistoriens. Et on s'est rendu compte qu'au paléolithique, les hommes ont réussi à développer des pyrotechnologies très très avancées et maîtriser justement ces problématiques-là. Alors déjà au niveau des foyers, donc on a d'ailleurs des traces aux Aisies qui remontent à 32 000 ans, hein, ou aux États-Unis, 10 000 ans en arrière. Alors soit les hommes en question donc rajoutaient des pierres dans les foyers pour permettre d'avoir des durées de cuisson plus importantes. Ou alors, quelquefois, ils avaient des problèmes de combustible, c'est-à-dire qu'ils avaient des combustibles trop rapides, comme de la paille, et donc c'est difficile de faire des cuissons prolongées. Et donc, ils utilisaient des roches pour stocker l'énergie thermique donc produite par ces combustibles beaucoup trop rapides, et ensuite donc faire les cuissons à partir de ces roches de stockage. Ils les ont aussi utilisées pour produire de la vapeur et faire des cuissons à la vapeur. Donc, ils chauffaient des pierres couvertes d'un dôme de terre, et une fois que ces pierres étaient bien chaudes, ils versaient de l'eau, alors pas avec un bécher évidemment à l'époque, pour faire des cuissons à la vapeur. Autre technologie très intéressante, bah, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème de compatibilité entre la source, le feu, et le fluide qu'est le porteur, l'eau, pour faire de l'eau chaude, ça ne marchait pas ensemble. Et donc ils ont eu quand même une idée assez extraordinaire qui consiste à faire un processus itératif de faire chauffer des pierres pour les plonger dans l'eau et progressivement faire bouillir l'eau. Donc c'est quand même un processus au plan intellectuel qui est assez remarquable. Voilà. Donc on est allé visiter un petit peu tout ça, et au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment des usages très intéressants. Alors là il n'y avait pas de traces du paléolithique parce qu'on ne peut pas en retrouver. Hein. Par contre ça, au niveau des Indiens nez percé, on a retrouvé ces usages-là aux États-Unis. Donc en termes de cuisson, si vous prenez par exemple le camas, hein, c'est ce genre de bulbe de cette très jolie fleur, c'est un bulbe en fait qui est tout à fait impropre à la consommation parce qu'à l'intérieur l'inuline n'est pas digeste en fait pour l'homme. Par contre, si vous hydrolysez cette inuline, vous la coupez donc pour obtenir le fructose. Alors ça peut se faire en laboratoire en faisant bouillir 80 minutes ou pendant 24 heures dans du HCl dilué. Bon, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Et donc les nez percés, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils entouraient ces camas de plantes riches en eau et en acide organique et dans des fours donc en terre contenant des roches de stockage, ils faisaient des cuissons de 48 heures. Et ils obtenaient donc bah, des très bons aliments, très sucrés, très nourrissants, et en plus très agréables à manger. Donc là, on voit effectivement qu'il y a des pyrotechnologies assez intéressantes au niveau du stockage thermique. Alors encore plus intéressant, on s'est rendu compte que 72 000 ans en arrière en Afrique du Sud et 20 000 ans en arrière donc en Europe de l'Ouest, les hommes du paléolithique avaient été capables en fait, de déployer des techniques de traitement du silex pour soit améliorer leur taille, leur comportement à la taille, soit permettre leur taille parce que certains silex ne se taillent pas. Et ça, sans fracturation du silex. Donc ça nous a quand même interpellés. Donc on travaille à l'heure actuelle, c'est un programme CNRS qui tourne depuis un an, on travaille avec nos collègues préhistoriens pour voir ce qui se passe. Alors on a différentes pistes hein, au niveau du paléolithique en faisant les fouilles dans les différents sites, hein. Soit ils réalisaient en fait des foyers avec les silex intégrés au foyer, soit les pièces étaient placées dans du sable sous le foyer, il y a différentes techniques, ou dans des gangs de protection en terre. Et toujours est-il qu'ils arrivaient donc à traiter thermiquement ces silex avec des réactions de type, par exemple, transformation de la silanol SiOH en liaison SiOSi, en maîtrisant parfaitement donc, la cuisson dans les 200-300 degrés. On est en train de travailler ça avec eux. Alors, eux, ça les arrange parce que, ayant des thermiciens et des physiciens du solide avec eux, ça leur permet de valider ou pas certaines idées qu'ils ont de ces traitements du paléolithique. Et puis, nous, au passage, ça nous permet de mettre au point des pré-traitements de stabilisation thermique des roches en vue de les utiliser pour stocker l'énergie dans nos centrales électrosolaires. Donc, c'est des projets pluridisciplinaires assez intéressants. Donc, au niveau international hein, et au niveau européen, on a depuis quelques temps des grands projets qui se lancent hein, sur le stockage de l'énergie thermique pour les centrales électrosolaires sur la base de roches. Donc ici, notamment avec le 2IE, qui est une fondation en Afrique de l'Ouest avec laquelle on travaille beaucoup, alors qui consiste là à mélanger les deux. C'est-à-dire que dans ces pays-là, dans toutes les zones noircies ici, vous avez ce qu'on appelle la latérite. Ce sont des sols qui sont lessivés et qui sont très très riches en oxyde d'aluminium et de fer, mais très pauvres en SiO2. Par contre, les cendres volantes de centrales thermiques au charbon sont très riches en SiO2 et relativement pauvres en oxyde métallique. Et donc l'idée, c'est de faire en fait la formulation, de se balader dans le diagramme ternaire en faisant des savants mélanges entre ces déchets industriels-là et des centrales thermiques au charbon, il y en a partout dans le monde, et les latérites, sachant que la couronne solaire est juste au-dessus de la couronne latéritique. Donc il y a en plus une bonne juxtaposition des deux. Et puis, donc un gros programme EuroSunMed, qui, comme son nom l'indique, concerne tous les pays européens de la Méditerranée, et qui, là, consiste effectivement à chercher des pré-traitements de stabilisation sur des quartzites, granites ou basaltes, en vue d'être utilisés dans des centrales électrosolaires. Voilà, donc si on résume un petit peu tout ça, c'est une approche en fait innovante qu'on développe en France, un petit peu en rupture de ce qui se passait avant. C'est-à-dire que quand le laboratoire s'est resolarisé il y a une dizaine d'années, on s'est demandé si on allait essayer de rattraper le train en route et de courir après notamment les Allemands. Et on a plutôt choisi effectivement de rentrer un petit peu en rupture technologique, en rupture de démarche, en allant sur ces déchets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'inertage de déchets, on l'a vu, il y a des gisements qui sont colossaux. Ça permet de réduire les dangers qui correspond au stockage en décharge contrôlée ou plus ou moins contrôlée de ces matériaux, de préserver les ressources naturelles plutôt qu'à l'exploiter, notamment les roches. Ça permet de développer des procédés d'inertage, donc ça avec des débouchés valorisants. C'est-à-dire que Europlasma Inertam a déjà vendu un ou deux process au Japon et en Corée, mais faute de débouchés valorisants, ils ont du mal à vendre leurs procédés de vitrification. Donc ça peut permettre aussi de développer leur business. Et puis, le fait de développer aussi des matériaux de stockage avec mise en forme, ça permet aussi de développer une activité industrielle à forte valeur ajoutée en termes de fonctionnalité. Et puis, bien sûr, c'est notre but, de développer les énergies renouvelables avec une réduction d'énergie grise contenue et gaz à effet de serre, réduction des coûts et amélioration du caractère soutenable et avec un temps de retour énergétique qui soit intéressant. Donc, c'est une démarche qui a été primée à Polytech ADEME 2011. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je suis disponible pour les questions.